9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche, merci de votre fidélité hebdomadaire. Et le plaisir de parler cinéma ce dimanche matin. Bonjour Mathilde Rouxel.
Bonjour.
Vous êtes la nouvelle directrice artistique du Festival Franco-Arabe qui va se dérouler très prochainement. Et c'est de cela que nous allons parler tout au long de ce Voix au chapitre ce dimanche. Le Festival du film Franco-Arabe de Noisy-le-Sec, c'est la 12e édition et il aura lieu du 17 au 28 novembre. Poursuivons la présentation des invités. Je reçois également la marraine du festival. La marraine du festival, elle va nous parler de ses courts-métrages qui sont aussi programmés dans le festival. Chloé Maslow, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Et je me tourne vers les deux réalisateurs qui sont aussi les invités de ce Voix au chapitre ce dimanche matin. Karim Sergier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Et vous allez nous parler du Pacte d'Alep, qui est votre documentaire qui sera programmé aussi dans ce festival. Enfin, Mehdi Fikri, réalisateur, qui nous parlera de Avant que les flammes ne s'éteignent, qui est son long métrage qui sort aujourd'hui sur les écrans et qui sera évidemment au Festival Franco-Arabe. Bonjour à vous.
Bonjour.
Voilà pour le bonjour et puis l'invitation à vous recevoir, le plaisir de vous recevoir toutes et tous ce dimanche matin pour parler de cinéma. Avant de parler de cinéma, on va d'abord parler et honorer votre venue, Mathilde Rouxel, puisque c'est une première pour que vous soyez là. Sachez à Beurre FM qu'en tout cas, on a une fidélité au Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Chaque année, oui, le rendez-vous est pris quelques semaines avant la grande ouverture pour recevoir la précédente directrice et puis les partenaires et des réalisateurs, des réalisatrices qui sont au rendez-vous de l'édition. Vous êtes la nouvelle directrice donc en parcourant votre des éléments biographiques, on va dire comme ça, vous concernant, vous avez une vraie attache au cinéma de manière générale hein, dans votre engagement et vous avez dans votre parcours, vous avez un intérêt que ça soit sur des questions de recherche et d'innovation dans ce qui est le cinéma et particulièrement le cinéma arabe. Comment vient cet intérêt, voire cette passion du cinéma arabe?
J'ai fait un premier échange universitaire au Liban il y a 10 ans déjà. Et j'ai travaillé avec notamment Justine Saab pendant très longtemps, et qui a effectivement été une porte d'entrée sur un monde complètement différent de celui que j'avais connu en vivant et grandissant en France. Et sa passion pour son pays, pour cette région aussi, et les différents pays de la région, et sa passion pour le Caire m'a amené à conduire une thèse en cinéma sur le cinéma militant en Égypte, en Tunisie et au Liban, et à programmer beaucoup de films pour différents festivals depuis déjà 10 ans maintenant, au Liban, en France, en Égypte.
Et là, vous faites attache à Noisy-le-Sec pour cette programmation. Vous avez été pour beaucoup donc dans cette programmation artistique du cinéma. D'ailleurs, on y voit cet attachement au Liban, hein, puisque c'est un focus comme ça, d'une certaine manière, sur le Liban. Une rétrospective de Jocelyne Saab aussi, donc cet intérêt pour le Liban, on vient de l'entendre, et puis on le verra au travers des documentaires, des fictions aussi, et des courts-métrages. Sur la programmation, peut-être que l'actualité, un mot quand même, parler du cinéma arabe, c'est parler... vous l'avez dit, c'est pas la même chose que parler du cinéma occidental ou du cinéma sud-américain ou américain tout court. On est dans des genres différents, dans des genres d'expression artistique cinématographique différents, parce que on y aborde dans des sujets que ça soit dans le documentaire ou dans la fiction, d'une certaine manière des sujets sociétaux qui sont des sujets qui sont récurrents dans le cinéma arabe, hein, on voit bien le quotidien, on voit bien la vie dans ces pays, dans ce monde arabe bousculé aujourd'hui, on y reviendra. Mais aujourd'hui, ce cinéma arabe, j'ai envie de dire, il est incontournable dans le cinéma international.
Oui, je pense que ce qui est important de noter, c'est aussi les mutations industrielles de ce secteur-là dans à peu près toute la région. Et que de toute façon, il y a de plus en plus de films qui se font, il y a de plus en plus de films qui aussi arrivent à trouver des financements un peu plus variés qu'auparavant, qui dépendaient beaucoup quand même des financements européens, qui cadrent quand même beaucoup aussi la production des films, les sujets, et justement, ce qui m'intéresse dans ce qui se passe maintenant, c'est qu'on sort un peu des sujets sociétaux, justement, on n'est plus sur des films où on apprend des trucs sur la société arabe, on est vraiment sur des écritures
fictionnelles, plutôt
pas forcément fictionnelles, documentaires aussi, il y a des écritures documentaires qui sont incroyables, le film de Karim est très, très intéressant d'un point de vue de sa forme aussi, le film de Joumana Manna, Cueilleur, le film palestinien, qui mêle un peu fiction et documentaire, propose vraiment des formes d'écriture qui débordent complètement l'information qu'on va tirer des films pour entrer vraiment dans des imaginaires du cinéma.
Quand je parle de films sociétaux, je veux intégrer l'idée que ça soit souvent en toile de fond, quoi. Il y a le quotidien en toile de fond, et puis il y a effectivement une autre écriture qui plus artistique d'une certaine manière dans l'approche cinématographique, bien sûr.
Ah oui, c'est sûr, et je pense que c'est ça qui fait aussi que les films sont de plus en plus sélectionnés dans les grands festivals occidentaux, mais aussi en Asie, etc., et qui sont primés parce qu'en fait ils apportent énormément à l'histoire du cinéma et à l'histoire des formes.
Je me tourne vers vous, Chloé Mazio, vous êtes aussi marraine du festival, on va le rappeler, et vous êtes aussi réalisatrice, mais vous êtes sur des courts-métrages.
Non, j'ai aussi...
Vous avez aussi fait d'autres...
J'ai également réalisé un long-métrage.
Un long-métrage, oui.
Qui s'appelle Sous le ciel d'Alice, qui est sorti il y a 2 ans au cinéma maintenant.
Et dans le cadre de cette programmation du festival franco-arabe de Noisy-le-Sec, vous allez, vos courts-métrages vont être présentés. Alors, rappelez-nous, c'est un peu comme dans l'écriture d'un roman, il y a le roman, il y a la nouvelle, puis il y a des courts textes, il y a des longs textes, etc. Le cinéma, ça procède aussi d'un style difficile, différent, que de faire un court-métrage plutôt qu'un moyen-métrage, plutôt qu'un long-métrage, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Donc l'exercice est assez...
Il est assez différent, mais je pense que chaque histoire a son format qui lui correspond, et des histoires ont besoin d'être racontées rapidement.
En 7 minutes, pour certains.
Voilà, et puis il y a des histoires qu'on a envie de prolonger. Par exemple, moi je suis passée du court, enfin je pensais pas un jour réaliser un long, mais c'est un moment, j'ai eu envie de parler plus longtemps, on va dire, de raconter une histoire plus longue, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce premier long métrage.
Et les courts-métrages, alors de qu'est-ce qu'ils nous racontent dans ces courts-métrages qui sont présentés dans le cadre du festival, souvent en avant-première de longs-métrages, justement?
Oui. Et ben,
qu'est-ce que vous nous donnez à voir dans ce court temps, justement?
Ben, c'est souvent des réflexions autour de... moi, je suis d'origine libanaise, donc il y a aussi beaucoup de réflexions autour de l'identité, de cette quête qu'on peut avoir quand on grandit avec une double culture, que je tourne un peu en dérision parfois, parce que voilà, parfois c'est légèrement exagéré, ma quête. Et donc il y a cette c'est plus les courts-métrages posent plus des questions qu'ils n'amènent de réponses, je pense. Enfin, c'est ce que je préfère, en tout cas, amener une question, de se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ce sujet, et la porte est ouverte ensuite pour la réponse. Et voilà, à peu près.
Voilà, pour le long-métrage, alors du coup, ça prend et du temps avoir et du temps à le construire en termes voilà, ça prend des mois et des mois que de faire un long métrage plus.
Même des années et des années.
Même des années, j'osais pas le dire parce que ça mettait la pression un peu de comment vous, on n'en finit pas avec ce film, mais on y reviendra avec les fictions après, mais les fictions présentées par nos invités. Ici sur le plateau, mais oui, bien sûr que ça prend du temps à écrire et puis après à mettre en image. Et comment vous et ce long métrage, par exemple, un mot sur ce long métrage, il va être
il était passé une autre édition, voilà.
Et combien de temps il avait pris ce long métrage qui était passé?
5 ans, je pense, 4-5 ans, ouais. Mais c'est un peu, je pense, le temps moyen, surtout pour les premiers longs métrages.
Voilà. Je me retourne vers vous, Mathilde Rouxel, directrice du festival, 12e édition, première édition pour vous, on peut le dire comme ça, mais en tout cas avec toute la dynamique et la force que vous avez d'avoir fait cette sélection de films, fiction, documentaire. Comment vous l'avez construite? Là, vous nous dites un mot un peu sur le déroulé de... Je disais tout à l'heure qu'il y avait j'avais observé en voyant ce riche programme qu'il y avait le Liban un peu plus important, mais il y a quand même une diversité. Il y a un film syrien, il y a des films français, il y a des films qui sont d'ailleurs aussi, un film palestinien, on reviendra aussi évidemment tout à l'heure sur la situation aujourd'hui avec le très beau film de de Soualem, de Lina Soualem, qui est tibériade, qui revient sur trois générations de femmes qui sont sur l'histoire, mais on en parlera après. Donc sur cette programmation de manière générale.
Oui, alors le festival, depuis trois ou quatre éditions déjà, propose un focus sur un pays particulier. Il y a eu la Palestine, il y a eu l'Algérie, et je voulais proposer cette année le Liban, parce que le Liban, depuis 2019, traverse une crise terrible, qui l'a plongé dans une détresse économique, sociale, politique, qui malheureusement est toujours riche de créativité. Et on reçoit énormément de films qui arrivent du Liban, qui ont été terminés récemment, qui parlent soit de cette situation, soit qui ont réussi à détourner un petit peu aussi la violence de cette histoire qui leur revient en pleine figure, pour pouvoir proposer des films de fiction. Et en fait, j'avais envie de montrer cette diversité, j'avais envie de rendre possible aussi une rencontre avec les réalisateurs, avec ce public-là. Et c'était l'occasion aussi de revenir un peu sur l'histoire du cinéma, parce que je pense qu'on peut pas comprendre, surtout qu'on, voilà, des festivals spécialisés comme les nôtres sont des festivals qui sont là pour montrer une diversité, mais cette diversité, elle s'inscrit dans une histoire du cinéma, et ça me semblait important d'ancrer cette nouveauté, ces nouvelles images du Liban dans une chronologie. Et c'est pour ça que j'ai proposé cette rétrospective autour des films de Jocelyne Saab, et que j'invite Maï Masri à venir parler aussi de son expérience.
Et sur d'autres films, par exemple, qu'est-ce que vous nous proposez à voir? Parce qu'on est à la radio, à Beurre FM, on ne voit pas, mais donnez-nous envie, oui, de voir. Alors je disais hors antenne, voilà, quels seraient un peu ceux que vous auriez envie de mettre en avant. Ils sont tous à mettre en avant, bien évidemment, dans une programmation aussi riche. Mais de nous donner à voir quelque chose qui soit important quand on peut pas voir tous les films d'un festival. Il y a aussi l'idée que, et on connaît bien ce festival, il y a des rencontres avec les réalisateurs, les réalisatrices, il y a des rencontres avec dans des hors les murs. Il y a vraiment une dynamique qui est hors cinéma, j'allais dire, et ça, c'est important de le souligner, puisque on est aussi dans la proximité. C'est ça, c'est la démarche de votre festival. Mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui de souligner comme film à ne pas manquer?
Alors le festival fait vraiment un panorama de toute la région du Maroc au Yémen, car on a la chance d'avoir en avant-première aussi Les Lueurs d'Aden d'Amel Gamal qui sera présenté dans le cadre du festival. Ce qui m'a semblé assez marquant cette année, c'est une espèce de vitalité du cinéma marocain de fiction porté par des femmes. Donc on présentera Indivision de Leïla Kilani, mais aussi Reine en clôture du festival, qui est un film assez explosif et assez une espèce de road movie comme ça, de trois femmes qui tentent de s'échapper de la société très patriarcale, et pour essayer de trouver
qui vont s'affranchir
complètement et essayer de trouver une liberté sur la route. Donc c'est un film assez énergique que j'aime beaucoup,
qui va bouleverser un peu, qui
remue un peu les lignes, qui effectivement ça pourrait être un manifeste féministe d'une certaine façon, et en tout cas qui convoque un peu le fantasme, le fantastique aussi, et c'est quelque chose de très intéressant, même dans la façon dont le film est réalisé et écrit. On accueille plusieurs avant-premières, en fait, puisqu'on a aussi effectivement le film de Lina Soualem, Bye Bye Tibériade, qui sera présenté aussi au Cinoche de Bagnolet, et qui est vraiment un documentaire qui nous donne accès aussi à toute une vie beaucoup plus intime, en fait, des Palestiniens, et qui me semble très important.
Merci d'en parler passionnément, Mathilde Rouxel, de ce programme. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin des réalisateurs et puis l'équipe du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. C'est la 12e édition et on vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et vous faites bien. Je rappelle que je reçois dans ce Voix au chapitre ce dimanche matin le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, et nous avons déjà commencé à parler du festival, des thématiques qui sont abordées, avec la nouvelle directrice qui est là, Mathilde Rouxel, avec aussi sa marraine, la marraine du festival, qui est là aussi, qui s'appelle Chloé Mazio, et dans ce programme, on y verra des courts-métrages, et je reçois également deux réalisateurs qui sont à mes côtés et qui sont impatients de parler, mais qui auront très très vite la parole, puisque leurs deux films, un documentaire et une fiction, sera présenté, Le Pacte d'Alep de Karim Zergier, qui est là, et le film de Mehdi Fekri qui s'appelle Avant que les flammes ne s'éteignent, qui est une fiction, et qui nous en parlera dans un instant. Je reviens vers vous, Mathilde Rouxel, pour que l'on poursuive ce que vous commenciez à dire en fin de première partie à propos du film de Lina Swalem, qui était le film Tibériade. L'actualité, bien évidemment, il a été programmé hors actualité depuis bien longtemps. D'ailleurs, elle le disait déjà quand elle venait de terminer le film sur ses grands-parents, qu'elle était en train de préparer ce film Tibériade sur les trois générations de femmes palestiniennes, sa grand-mère, sa mère et elle, qui est issue de cette mixité chez ses parents, puisque son père est d'origine algérienne, comédien aussi. L'actualité, vous vous doutez bien, Mathilde Rouxel, qu'elle va impacter, pas le film évidemment, parce que le film est une histoire singulière d'une famille, mais qui est la complexité et qui est l'histoire de la Palestine. Dans cette actualité, le public sera attentif, sensible, très dans où nous en sommes aujourd'hui, parce que depuis le 7 octobre, voilà, ce drame Israël-Palestine est en nous. Souvent, on dit, faut pas importer. Bah si, l'histoire internationale nous intéresse et il est important de rappeler ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous doutez bien qu'on va en parler au cinéma.
Et surtout que finalement, la programmation est aussi très très palestinienne. Le film de Lina est un exemple peut-être le plus intime et le moins frontalement politique, mais on a aussi le film de Camille Clavel, Birem, qui discute de l'occupation et de l'apartheid, en fait, de l'état d'apartheid que vivent les Palestiniens en Israël. Et on a le film de Joumana Manna, sur lequel j'aimerais insister, parce qu'il est vraiment magnifique, Cueilleur, qui est un documentaire qui joue avec la fiction aussi pour dénoncer la façon dont les Israéliens, l'armée israélienne, le système empêchent les Palestiniens de cueillir les herbes avec lesquelles qui font le sel de leur cuisine, en fait. Et qui dénonce vraiment la réalité de façon assez crue de la colonisation israélienne. Et surtout, on a la chance d'avoir avec nous pendant quelques jours Maï Masri, qui est considérée comme étant la première réalisatrice palestinienne, qui a évidemment pas pu grandir en Palestine, qui a grandi au Liban et qui a fait des études aux États-Unis, qui est revenue filmer à la fin de la guerre civile le Liban, mais aussi beaucoup la situation des Palestiniens, les réfugiés palestiniens. Elle présentera Les Enfants de Shatila, un documentaire qu'elle a réalisé en 98. Elle nous donnera une masterclass surtout sur l'ensemble de sa carrière, où elle parlera de son travail de fiction et de documentaire autour de justement ces causes palestiniennes, qui sont en fait des causes internationales évidemment, et qui devraient évidemment tous nous intéresser.
Et le public sera attentif à tout ça, puisque effectivement il y a un panel de films que vous venez de citer et qui donne à comprendre l'histoire aussi de la Palestine, et c'est ça qui est important. Le cinéma, il convoque à ça, il convoque à comprendre l'histoire. Quand je parlais de sujets sociétaux tout à l'heure, c'est d'une certaine manière des sujets sociétaux, ou la cueillette, moi j'ai hâte de voir, de même que le film Tibériade. Mais ça veut dire que voilà, on a la vie des Palestiniens, des Palestiniennes, au travers des images, au travers des histoires. Et ça, c'est... J'allais presque dire, je ne sais pas si ça vaut plus qu'un long discours, mais ça donne envie de dire ça, en tout cas.
Oui, et puis ce qui est important, c'est de comprendre que ce qui se trame aujourd'hui et ce qui refait notre actualité est un problème réel vécu par les Palestiniens au quotidien depuis 48. Et que ça, c'est important aussi de le rappeler à travers le cinéma, de revenir aussi sur ces histoires et sur ces grandes problématiques lié à l'histoire aussi d'Israël. Le film de Jocelyne Saab qui est présenté ce dimanche, Lettre de Beyrouth, discute aussi l'invasion israélienne du Liban. Et en fait, voilà, toutes ces problématiques géopolitiques qui sont celles auxquelles on fait face aujourd'hui existent depuis plus de 75 ans.
Alors je ne peux pas m'empêcher de citer un documentaire que j'ai vu hier soir à l'Institut du Monde Arabe, qui s'appelle Les Guerrières de la Paix. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un documentaire qui a été réalisé par Anna Assouline, qui retrace le dialogue et l'histoire de femmes palestiniennes et de femmes israéliennes qui vont œuvrer pour la paix, au travers des discussions, des échanges, des rencontres de femmes. C'est très féministe au sens grand du terme. Parce que, bon, après, elle a une allégorie, un souligné en rappelant que, voilà, ça ne peut que passer par les femmes. Après, ça, c'est son point de vue. Mais en tout cas, le documentaire est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, il convoque à dire qu'une paix. Et son documentaire, elle l'a fait en 2018, hein, il était passé sur la chaîne Public Sénat. Et je trouve que moi j'ai été bouleversée par ce documentaire. La salle était pleine, ovationnant la réalisatrice, parce qu'il donnait vraiment. Il se dit ah ouais, on veut quand même cette paix, mais bon après c'est un autre débat. Mais comme on est dans le cinéma, il y a ce regard qui est intéressant au travers ce dialogue de femmes palestiniennes et de femmes israéliennes. Et je voulais le partager avec vous. Les réalisateurs, bonjour encore. On va commencer par vous, Mehdi Fikri. Vous nous présentez dans le cadre du festival avant que les flammes ne s'éteignent.
Tout à fait.
C'est ça, hein ?
C'est exactement ça.
Ouais, parce qu'il faut pas.
Merci au festival d'ailleurs. On est hyper content de faire partie de ce festival.
Ah ben voilà. Ouais. Mathilde Rouxel sourit.
Merci
elle
à
est, elle est ravie de. Voilà, vous en êtes pour quelque chose. Ça fait partie de la programmation dont vous.
Ah ben c'est la. Oui, c'est.
Voilà.
J'en suis très fière.
Voilà. Il est en présence, vous allez être présenté, le film sera présenté, pardon, le 22 novembre, il sort aujourd'hui.
Tout à fait, le 15, ouais.
Voilà, le 15 novembre, dans les salles, comme on dit. Et le 22 novembre, vous serez, à l'issue de la présentation de votre film, vous participerez à un débat avec, une rencontre avec le public. Avant que les flammes ne s'éteignent, je rappelle un mot sur vous, vous étiez journaliste avant d'être réalisateur, c'est votre premier
tout à fait
long métrage.
Ouais.
Et un mot, on dit en lisant, hein, je n'inventerai rien, le synopsis du film. Suite à la mort de son petit frère, lors d'une interpellation de police, Malika se lance dans un combat judiciaire afin qu'un procès ait lieu. Mais sa quête de vérité met en péril l'équilibre de sa famille. C'est un film qui est intéressant dans l'actualité d'aujourd'hui, puisque on est 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et depuis 40 ans, je m'efforce de le dire encore ici avec détermination, des bavures policières, des vannes de longs rifles, des contrôles aux faciès n'ont jamais cessé. C'est peut-être aussi le journaliste qui a aussi intégré, avant de réaliser ce film fictionnel, ce qu'il a peut-être traité, abordé dans des sujets et qui semble important de souligner au travers de la fiction. Et je trouve que là aussi, la fiction nous dit aussi sur ce que la société française avait, enfin, ce que des jeunes issus d'immigration, en tout cas, voilà,
Malika, vivent encore.
Qui, pardon ?
Vivent encore, comme tu dis. Bah ouais.
Voilà, traverse encore aujourd'hui, c'est pas pour rien que il a fallu marcher il y a 40 ans et que cette commémoration est importante en ce novembre-décembre 2023. Camélia Jordana interprète Malika ?
Oui, tout à ouais. fait.
Alors, comment vient l'écriture de cette... Alors, on dit fait divers, mais moi, je ne dis pas que c'est un fait divers. Je dis que c'est un sujet d'actualité.
Bah, surtout qu'en plus, ce qui m'intéresse, c'est... Enfin, c'est pas tant le fait en lui-même que la construction politique qui vient derrière, en fait. Moi, j'ai vraiment voulu raconter le parcours d'émancipation d'une famille arabe, en fait. Voilà, vraiment, c'est un film qui est un film politique, évidemment, comme tu l'as dit, et c'est aussi un drame familial. Je voulais vraiment que la question de l'intime et du politique marchent ensemble, et c'est pour ça que je suis hyper content de présenter le film dans le cadre du festival, et aussi dans cette période-là, et de raconter ce parcours d'émancipation-là, quoi. Voilà, moi, c'est vraiment... Je suis effectivement ancien journaliste, mais je suis aussi... je suis né, j'ai grandi, je vis toujours dans le 93, je suis enfant de militants politiques, et la politique c'est quelque chose sur lequel, enfin, qui moi m'a aidé à m'appuyer pour faire mes études, qui sur lequel on a construit une camaraderie, de l'amitié, et même si, comme t'as raison, je trouve ça beau ce que tu disais tout à l'heure, vous avez marché dans les années 80, et on marche toujours, nouveaux enfants, nous marchons toujours, voilà. Et je sais pas si on va atteindre quelque chose au bout du chemin, mais le chemin en soi il est important, et vraiment le film raconte ça. C'est un film sur comment tu donnes du sens à un trauma, à un moment, grâce à la politique, en nommant des choses, quoi. Et voilà. Et par les temps qui courent où la vérité, y a différentes vérités, où les mots qu'on utilise ont leur poids. Voilà. Montrer une famille qui veut juste dire mon frère a été tué par des policiers. Et que juste ça, c'est scandaleux. Et que juste ça, c'est pas évident. Que juste ça, ça doit être un combat en soi. Voilà, j'avais envie de faire ce film. Et voilà. Et en tant qu'habitant du 93, de quartier populaire, en tant que jeune arabe de France, je suis content de montrer ce film aussi sur ce territoire-là. C'est vraiment génial, quoi.
Je pense que le public sera nombreux à voir ce film et les autres, évidemment, parce que il va leur parler, comme vous dites, parce que vous soulignez fortement que vous êtes du 93.
Mais oui.
Et qu'effectivement, c'est dans ces territoires-là, hélas, c'est pas au cœur de la Corrèze qu'il y a autant de violence. Il y a vraiment quelque chose de... d'un racisme sismique, quoi. Je veux dire qu'une violence policière, il y a des impunités, il y a, voilà, il y a tout ça aussi qui est à dire et à rappeler. Ce film, je l'ai dit, il sort sur les écrans au niveau national et il sera présenté le lundi 20 novembre à 14h30 et le mercredi 22 novembre à 20h30. En après-midi, c'est parce qu'il y a un public particulier, il y a un public scolaire, il y a aussi une démarche intéressante dans la démarche du festival. Mmh. Je me tourne vers vous.
Oui, on est très content de pouvoir accueillir un public scolaire pour cette séance. Et de pouvoir discuter de ces questions-là avec une jeunesse qui se sent très très concernée.
On va vous retrouver les uns et les autres dans un instant pour la dernière partie de l'émission.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin. Je rappelle que nous parlons du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. C'est la 12e édition avec la directrice du festival, la marraine et des réalisateurs. Je me tourne vers le deuxième réalisateur, pardon, qui est au rendez-vous ce matin, Karim Sergier, pour nous parler de ce film, Le Pacte d'Alep. En fait, c'est un documentaire. Un mot sur vous. Vous êtes syrien. Vous vivez aujourd'hui à Paris, vous avez grandi en Syrie et vous avez pris, quand vous étiez étudiant, vous avez commencé à filmer la Syrie dans les années entre 2011 et 2016, dans le conflit, dans la guerre en Syrie, à Alep, au siège d'Alep particulièrement, où vous êtes né, où vous avez vécu. Une ville qui a été coupée en deux ensuite. Vous allez nous raconter tout ça, si vous le voulez bien, pour comprendre ce qui se dit dans votre documentaire, ce qui s'écrit et se vit pour vous, puisque c'est aussi votre histoire singulière qui s'inscrit dans la grande histoire de la Syrie.
L'histoire, c'est simplement c'est une révolution qui a commencé en Syrie en 2011, suivre le printemps arabe, pour demander la liberté, essayer de finir les périodes de dictateurs. Ça commence à l'université d'Alep, faire des manifestations. Et mon rôle, c'était de filmer ça. Mais l'histoire, elle est pas finie. Donc, la révolution, elle devient de guerre. Beaucoup de personnes décidées à prendre l'arme pour résister contre les dictateurs. Et c'est en 2011. Alors, les villes d'Alep, il est coupé à dos, est et ouest. Le même scénario qui passe au Beyrouth, au Berlin, dans plusieurs villes pendant les guerres. Et ça finit avec un siège dans plusieurs villes en Syrie, pas juste Alep. Alep, Homs, Daraa, donc presque toutes les villes. Les stratégies qu'il a fait le régime de Bachar, c'est la même chose qu'on voit ici. Faire un siège de la Boble et après faire un exil force. Pour forcer les Bobles de quitter la ville. Et on était obligé à la fin de sortir. Et qu'est-ce que je fais moi? Je fais toujours les tournages pour témoigner qu'est-ce qui se passe et aussi rencontrer l'histoire qu'on peut pas voir sur les télés, pas voir sur les social media.
C'est un documentaire qui nous donne à comprendre la situation de la Syrie, de cette Alep coupée en deux, puisque vous êtes originaire de Alep, il y avait Alep Est, Alep Ouest, après vous êtes réfugié, votre famille est toujours là-bas, vous vivez en France
presque toutes les familles sont en exil, mais on est partout. Je suis en France, il y a une autre personne en Égypte, au Liban, donc on est partout, comme toutes les familles syriennes.
Bien sûr, mais après, le film convoque aussi justement à cet exil, cette interrogation, partir ou rester, d'une certaine
Mais c'est pas de film de rencontre l'histoire de l'exil. C'est plus loin de ça.
Oui, j'entends bien. C'est une histoire personnelle aussi auquel vous êtes attaché. Voilà.
Si je vais parler de la film, c'est un film qui va dans l'intérieur de la personnage de le citoyen d'Allah pour expliquer les difficultés de vivre en guerre et c'est quoi les problèmes psychologiques qui passent avec les citoyens. C'est les choses qu'on voit pas sur les télés. C'est les choses qui on est toujours à bord de parler de ce sujet. Dans le pays Moyen-Orient, pays arabe, c'est compliqué de parler de quelqu'un qui va chez les psy pour parler de ses problèmes, même si c'est dans la guerre. Donc, C'est il y a plusieurs histoires dans le film, bien sûr, mais pour moi, c'est le corps de la film.
Et surtout, vous le dites aussi quand je regarde un peu de quoi il est question dans votre film, le pacte d'Alep, c'est aussi déjà d'abord le. Pourquoi vous dites pacte?
C'est une histoire. J'ai fait un pacte avec un ami pour rester jusqu'à bout, pour pas lâcher les mains, soutenir les citoyens d'Alep les maximum que possible, résister. Et j'ai rencontré cette histoire dans le film. Donc malheureusement, mon ami, je lui ai perdu, il est décédé. J'ai rencontré ça dans le film. Et moi, j'étais essayé de garder ce pacte jusqu'à bout. Et ça finit en exil.
Et aujourd'hui, quel est votre lien avec la Syrie, Karim Sergé? Vous êtes en lien par WhatsApp, comme on dit maintenant, par
je
le
crois...
peu que vous. Même, j'ai bien entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans l'exil, hein.
Ouais.
Mais il y a quand même quelque chose qui est en vous, qui vous attire vers. Parce qu'on n'entend plus beaucoup parler de la Syrie, ça c'est un fait. Je veux dire que vous l'avez dit, il n'y a plus d'images, il n'y a plus de. Voilà.
Oui, parce que les télévisions, les médias, c'est un petit peu. On dit c'est lié avec les politiques. Si on a besoin de parler de la Syrie, on parle. Si on a besoin bas, on parle bas. Donc c'est lié avec les politiques, droite, à gauche. Donc c'est compliqué. Bon, la relation avec la Syrie, c'est compliqué. Je ne peux pas faire une relation par WhatsApp, relation virtuelle. Bon, moi, je ne crois pas de cette relation. Donc, oui. je dois être là-bas pour sentir la Syrie. Mais c'est mon pays, donc elle est dans l'accord.
Mmh. Ouais. Vous écoutez avec attention. C'est ce que vous attendez d'un réalisateur qui présente ses films, qui parle, qui témoigne de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé, parce que l'un et l'autre on témoigne de pourquoi ils écrivent, pourquoi ils ont fait ce documentaire. On l'a vu avec la fiction de Mehdi Fikri ou Avant que les flammes ne s'éteignent, quand il en parle, on le voit aussi avec force avec le documentaire Le Pacte d'Alep. C'est ça le cinéma. Et c'est le cinéma que vous voulez montrer, parce qu'il donne à comprendre, je le répète, mais c'est important de... Là, vous les entendez, j'allais dire peut-être une première fois ou pas, mais en tout cas, c'est important que ça soit dit comme ça.
Oui, je pense que la force des festivals, c'est de permettre ces rencontres-là aussi, et d'ouvrir un dialogue entre le public et les réalisateurs. Et effectivement, un témoignage sur un travail comme celui-là, le cinéma, c'est un travail difficile. Faire un film, c'est une course d'obstacles. Et c'est important aussi de se rendre compte de ça et de prendre la mesure du travail qui a été réalisé et de l'ambition aussi... souvent très politique, parce que le cinéma est un art politique aussi, que les réalisateurs peuvent présenter dans leurs films. Donc ce dialogue-là est très important, effectivement, et je suis très contente de pouvoir les entendre aujourd'hui.
On va poursuivre encore quelques minutes pour parler de ce festival du cinéma. Je reste avec vous pour que vous nous donniez... alors, les dates, c'est du 17 au 28 novembre. Donc, voilà... des après-midi, des soirées, des hors les murs, ce qu'on appelle hors les murs. Ça veut dire qu'il y a des films qui vont être dans ce magnifique cinéma. Un mot quand même sur ce beau cinéma qui est à cheval entre la ville de Noisy-le-Sec et
de Romainville.
Et Romainville. Mmh. Bah, c'était là où tournait Eddie Mitchell. Mmh. Là, comment ça s'appelait ? C'était ma dernière séance. Voilà, c'est ça.
Ça ne sera pas les dernières. Là.
Mais voilà, vous m'avez devancé, mais vous avez raison, Chloé. Merci de le dire, la marraine. Rappelle que, évidemment, ça ne sera pas la dernière séance puisque ça fait 12 éditions. Et c'est pas fini. Donc, il y aura des rencontres hors les murs. Elles sont où, ces rencontres hors les murs?
Alors, on a des partenariats avec plusieurs établissements de Noisy-le-Sec qui proposent des programmations qui sont liées à chacun des établissements. Swad Massis se produira au Théâtre des Bergeries. Il y a une soirée du collectif des Arabes du Futur.
Ils sont venus à Beurre FM la semaine dernière.
Super, voilà. qui seront du coup à Bobigny. Oui, c'est ça.
À Canal 93.
À Canal 93. On a aussi la chance de pouvoir avoir tout le réseau, une grande partie du réseau de cinéma d'Est Ensemble qui reprennent une partie de notre programmation ou qui proposent des films qui sont en lien avec les thématiques du festival, au Cinoche de
Bagnolet.
Au Cinoche de Bagnolet, à l'écran nomade de Bobigny, au Ciné 104 de Pantin et au Cinéma Le Rau de Bondy. Et donc ça permet d'enrichir aussi le festival et de multiplier les publics et les rencontres.
Oh. Vous auriez quelque chose à ajouter sur le 93, puisque vous êtes ancré dans le 93 toujours.
Mais pas que sur le 93.
Ah, oui. Ah, c'est vous qui avez parlé du 93.
Pas sur le 93.
Hein.
Non, mais il y aurait tellement de choses à ajouter.
Parce que dans le film, je suis sûr qu'il y a un regard sur la banlieue de manière générale.
Et aussi.
Pas que, mais aussi
sur les Arabes.
Et sur les Arabes.
Je suis content que notamment le Liban soit à l'honneur. Parce que je disais à Chloé Maslow tout à l'heure, j'ai eu la chance de vivre au Liban à un certain moment. Et j'ai découvert un livre d'un journaliste qui s'appelait Samir Kassir, qui s'appelle Considération sur le malheur arabe. Et sur le rapport, hélas, que voilà, le monde arabe entretient avec la mort, en fait. Avec l'idée de la mort, en tout cas. Voilà. Et aussi avec l'idée que à l'intérieur de toute crise, eh ben, il y a aussi des solutions, et qu'à l'intérieur de difficiles à saisir, comme le monde qui nous entoure en ce moment, mais quand même, voilà, que au fond de ces crises-là, il y a quand même à un moment la possibilité d'en faire quelque chose. Et qu'un livre libanais, du coup, c'est très libanais, Samir Kassir. Voilà. Donc encore une fois, on est hyper heureux, je pense. Et Karim va être d'accord avec moi d'être avec vous dans ce festival. Merci Mathilde, merci Chloé.
Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le pacte d'Alep, vous serez aussi après la projection de votre documentaire, vous serez présent, Karim Sergier. Et pour vous, le film, il sera diffusé le lundi 20 novembre à 21h et le mercredi 22 novembre à 16h. On va peut-être donner un rendez-vous pratique pour les auditeurs, les auditrices, avec un téléphone, ou faut réserver pour aller au cinéma, comment ça se passe?
On peut réserver les places sur le site du cinéma Le Trianon. En fait, toute la programmation du festival est sur le site du cinéma Le Trianon. Je vous invite à Romainville.
Oui.
Mais bon, voilà, c'est le cinéma.
C'est toujours compliqué. Voilà, c'est le cinéma, voilà. Festival du cinéma de Noisy-le-Sec. Le cinéma, il est sur les deux communes. Voilà.
C'est très bien. Ça permet plus de circulation, on est très content.
Ouais. Vous vouliez ajouter d'autres choses pour conclure?
Oui, je pourrais ajouter que
des séquences pour la jeunesse aussi.
Alors oui, on a une séance jeunesse qui est consacrée aussi à du cinéma de patrimoine, dans cette même volonté d'inscrire un petit peu le cinéma dans une continuité. Voilà. C'est pas du cinéma d'animation, c'est du cinéma docu-fiction, c'est des histoires d'enfants avec des animaux. Donc le premier film, c'est un film d'Atiyat Al-Abnoudi, qui est considéré comme la mère du documentaire en Égypte, et qui a réalisé un film sur le delta du Nil qui est très, très émouvant et très touchant, et qui permet de découvrir un peu aussi ces imaginaires-là. Et un film d'une réalisatrice française, Yannick Bellon, qui réalise en Tunisie dans les années 50 un petit film qui s'appelle Za, le petit chameau blanc, qui est l'histoire d'un petit enfant et d'un petit chameau, un enfant qui perd son chameau, qui essaie de retrouver son chameau, et qui permettait en fait.
Ah, perdre un chameau, faut le faire.
Oui, mais. C'était un film qui circulait dans les écoles dans les années 60 et qui permettait de donner des images de la Tunisie coloniale. Mais voilà, c'est aussi des questions à poser.
Chloé, un mot.
Pour conclure, si tant est qu'on puisse conclure. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous aviez dit par rapport au cinéma, que justement le cinéma aidait à comprendre certains moments d'actualité. Mais je trouve qu'il y a aussi cette dimension de ressenti qui est très forte, et que le cinéma, c'est aussi un partage d'émotions plus qu'intellectuel. C'est aussi offrir aux spectateurs la possibilité de partager un moment. Avec des personnages de fiction, et ça nous aide à appréhender notre monde de façon différente. Donc venez au festival.
C'est sûr. Allez, un mot pour conclure, l'un et l'autre.
Karim.
Je veux pas parler sur le cinéma. Je vais juste demander à arrêter les bombardements à Gaza. C'est mon dernier mot.
Merci à vous.
Je peux que partager aussi ce que vient de dire Karim, et qu'effectivement notre gouvernement devrait appeler plus vigoureusement au cessez-le-feu. C'est pas possible. Merci.
Merci à vous, les uns et les autres, d'être venus ce dimanche matin. Les mots de la fin sont avec fermeté, et on a bien raison. Rendez-vous au cinéma, pour les auditeurs, les auditrices, Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. C'est du 17 au 28 novembre. Allez sur le site et vous allez vous régaler. J'espère que ce dimanche matin vous aura donné envie d'aller voir de beaux films. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien, et on va se quitter avec celui qu'on aime beaucoup à Beurre FM, qui s'appelle Rachita, qui nous manque beaucoup aussi. Une pensée pour lui, avec son titre Voilà, voilà.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.